Le forum Habiter durable sur le thème Rénover en copropriété, mardi 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris sur Radio Immo et Carbone Zéro, la radio.
Et nous sommes donc pour la dernière fois en direct du forum Habiter durable organisé par l'Agence parisienne du climat sur ce plateau en pleine salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris, plateau Carbone Zéro, la radio, première web radio dédiée aux transitions et Radio Immo pour parler de ces enjeux de rénovation. Et on va en arriver au sujet qu'on a déjà évoqué ici de rénovation globale avec le collectif Rénovation globale qui est la création d'un nouveau référentiel d'offres pour la copropriété entre différents professionnels, un syndic, bureau d'études, architecte. Trois d'entre eux sont présents sur ce plateau avec moi. François Pellegrin, bonjour.
Bonjour.
Architecte, urbaniste, président d'honneur de l'UMSA, l'Union nationale des syndicats français d'architectes. Jean-Charles Vaillant, bonjour.
Bonjour.
Qui est donc aussi architecte et membre de la compagnie des architectes de copropriété. Et puis pour représenter un syndic, puisque je parlais aussi de ces acteurs engagés, Olivier Safar, bonjour.
Bonjour.
Qui est président adjoint de l'UNIS, qui est l'Union nationale des syndicats de l'immobilier. Vous êtes en charge de la copropriété, donc ça tombe très bien, j'allais dire, pour le sujet. Alors, avant de mieux comprendre ce collectif Rénovation globale et ce qu'il implique, j'aimerais tout simplement vous poser la question aux uns et aux autres. Pourquoi parler de rénovation globale? On sait bien qu'il y a des enjeux majeurs en la matière, on ne cesse de le répéter. Évidemment, à travers les plans, plan France Relance et MaPrimeRénov, France Rénov, on a vu une accélération du mouvement. L'idée, François Pellegrin, c'est qu'on ne peut pas faire ça par petits bouts, hein, c'est ça?
C'est évident. C'est évident qu'il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet et il faut être dans la pluridisciplinarité. Alors, avant de rentrer dans la pluridisciplinarité, je voudrais profiter de cette tribune pour juste rappeler ce que les architectes font sur ce sujet de la rénovation globale qui se décline à plusieurs échelles. Sur la maison individuelle, on a noué un partenariat avec la CAPEB pour pouvoir faire des offres bouclées, clés en main, délais garantis, mais aussi indépendance par l'entremise de l'architecte. Première action sur la maison individuelle. Deuxième action, c'est celle de cette table ronde sur le collectif global rénovation, on va en parler. Troisième action qui aidera aussi à massifier plus rapidement, c'est arrêter de bricoler à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de l'immeuble et embrasser des îlots entiers. On en a parlé dans une autre émission. C'est l'opération que nous menons avec le Club de l'amélioration de l'habitat qui s'appelle l'opération de requalification architecturale urbaine environnementale, OPERAE.
Vous réfléchissez en îlots de quartier,
voilà.
En fait. Voilà.
Voilà. Mais pour revenir au collectif Rénovation globale, le constat, c'est que chacun y voit à peu près clair depuis son palier, depuis sa fenêtre. Et puis dès qu'on discute entre nous, on se rend compte que y a des mots qui ne résonnent pas pareil et qu'il est temps de se mettre autour d'une même table. Sur ce salon aujourd'hui, on voit une belle dynamique, mais on voit des gens complètement déboussolés. Mmh. On a des conseils syndicaux, des copropriétaires qui viennent nous voir, qui n'ont pas encore compris la démarche. Alors on les envoie tout de suite sur l'Agence parisienne du climat, qui sait parfaitement décliner la démarche. Mais nous, on a aussi à balayer devant notre porte, et c'est l'objet de ce collectif, c'est de s'auto-articuler, de s'auto-aider, de s'auto-promouvoir pour arriver à cette massification.
Alors Jean-Charles Vaillant, j'imagine c'est un avis évidemment que vous partagez.
Oui, effectivement, notre association promeut effectivement cette rénovation globale depuis plus de 25 ans. Et on est très heureux.
Plus de 25 ans, voilà, quand même. J'allais dire, on peut se dire qu'il faut du temps pour que ça bouge.
Et on est heureux, effectivement, de trouver d'autres organisations professionnelles qui se sont fédérées autour de cette question.
Et alors, évidemment, du point de vue du syndic aussi, Olivier Safar.
Alors, du point de vue du syndic, nous, on était face à un constat où à chaque fois qu'on lançait des opérations de travaux, les copropriétaires ne comprenaient pas. Pourquoi ? On allait en assemblée générale, le syndic présentait les choses d'une façon. L'architecte le présentait avec d'autres termes, d'autres mots. Le bureau d'études qu'on faisait venir, parce qu'aujourd'hui on en avait besoin, que ce soit un bureau d'études thermique ou un bureau d'études amiante, parce qu'on a de l'amiante dans certains immeubles, il parlait encore d'autres termes et d'autres visions. Donc au global, les copropriétaires étaient embrouillés, rien ne se faisait, rien ne se votait. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas capable de s'organiser auparavant, d'utiliser les mêmes termes et de présenter les choses de façon ordonnée, groupée, pour rassurer les copropriétaires et pour avancer sur des travaux à réaliser. Parce qu'aujourd'hui, ils font des petits travaux, ça rapporte rien. C'est-à-dire qu'on fait des patchs, on fait des petites réparations, mais globalement, on n'améliore pas toute la partie énergétique et globale de l'immeuble.
Alors, puisque vous faites ça depuis 25 ans, j'allais dire, je vais d'abord repasser la parole à Jean-Charles Vaillant. Qu'est-ce que ça laisse entendre ? Qu'est-ce qui englobe, on va dire, une rénovation globale d'un bâtiment ?
Alors, à la différence de ce qu'on pouvait faire dans les années précédentes, hein, notre objectif, c'est justement de ne pas englober que la question énergétique, mais d'arriver à embarquer l'ensemble des questions qui touchent au cadre de vie en fait, des copropriétaires. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que si on ne parlait que d'énergétique, eh bien, il y a un moment, les projets n'aboutissaient pas parce que ce n'était pas suffisamment fédérateur pour que la copropriété s'engage entièrement. Quand vous avez des problèmes sur la vétusté de vos cages d'escalier, sur la sécurisation de l'immeuble, eh bien, ça devient des priorités aussi pour les copropriétaires. Donc on leur a dit, ben voilà, on va embarquer les travaux énergétiques dans une démarche beaucoup plus complète, qui est la rénovation complète de votre immeuble.
D'accord, donc ça peut intégrer, on en a parlé tout à l'heure, la ventilation, on a même parlé de végétalisation, pourquoi pas, parce que finalement, ça a des effets de rafraîchissement aussi. Ça peut englober tous ces sujets-là, finalement.
Ça doit.
Et ça les englobera, parce qu'aujourd'hui, quand on fait que de la rénovation énergétique, la plupart de nos copropriétaires ne voient pas le résultat. C'est-à-dire que quand vous avez refait une façade, bah, c'est très bien, vous avez refait une partie toiture avec un élément thermique à l'intérieur, ils n'y voient rien. Rien n'a changé pour eux. Et pourtant, le montant investi est très important. Or, quand vous commencez à faire une partie globale, vous allez améliorer les cages d'escalier, les accès, vous allez améliorer toute la partie végétalisation parce que vous pouvez en rajouter, vous allez améliorer leur confort et leur plaisir d'habiter dans les appartements et dans les immeubles où ils sont. Alors, et ça, c'est un point très important.
Je sais que François Pellegrin est prêt à réagir.
Non, je voulais dire que France Rénov a changé les curseurs. Et le fait que l'action soit conduite maintenant par l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, et non plus par l'ADEME, explique parfaitement ce qu'on vient de dire, c'est qu'il fallait sortir la mono-vision thermique. Ça ne fait pas rêver les gens, certes ça revient devant la scène au prix...
La hausse des prix de l'énergie.
Mais on voit bien, c'est du vécu, qu'une assemblée générale sur un audit énergétique, elle voit des choses odieuses, elle voit des temps de retour insupportables. Et finalement, c'est un bon prétexte pour refermer le dossier et ne rien faire. Alors que si on fait cet audit global, qu'on met le doigt sur des choses qui sont incontestables, si on parle qualité de vie, qualité de l'air,
confort,
santé, sécurité, confort, au passage évidemment économie d'énergie, biodiversité, économie circulaire et valorisation patrimoniale, alors là, on commence à être entendu. Et je pense que c'est ce qui est en train de se produire. Ça change le curseur, ça renvoie plus de responsabilités sur l'architecte et le syndic, alors que jusqu'à présent, il n'y avait que le thermicien qui était sous le feu des projecteurs. Le thermicien a toujours son mot à dire, mais voilà, il y a trois acteurs majeurs qui sont ici présents et qui sont à décliner, à articuler.
Alors justement, vous vouliez réagir, je crois, Olivier Safar, et puis après on va arriver concrètement à ce référentiel d'offres.
Un point important, c'est qu'il faut que les copropriétaires adoptent le projet qui est présenté par le syndic, l'architecte et le bureau d'études. S'il ne le fait pas sien, si ça ne lui fait pas plaisir de voir ce qui va être fait, c'est perdu. Il faut effectivement les faire venir. Ça veut dire une première réunion d'information, une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est beaucoup de temps à passer avec eux, beaucoup d'explications, parce que c'est pas simple. Mais d'un autre côté, c'est un accompagnement nécessaire. Et si ils adoptent le projet, si c'est leur projet, là, vous êtes sûr d'y aller, parce qu'ils vont trouver l'immeuble plus beau, plus agréable, et surtout, l'appartement vaudra plus cher dans l'immeuble.
Évidemment. Alors là, on a bien compris les enjeux avec vous trois. On en arrive à ce collectif qui a donc été mis en place. Rénovation globale, création d'un nouveau référentiel d'offres pour les copropriétés entre différents professionnels qui sont là. Expliquez ce que c'est que ce référentiel, François Pellegrin.
Oui, avant d'entrer dans le référentiel. D'abord, le collectif, il s'adresse à qui ? Il s'adresse à toutes les parties prenantes. On a vu qu'elles sont très nombreuses. Il ne s'adresse pas à un bureau d'études privé, à un cabinet d'architecte privé. Il s'adresse à des fédérations professionnelles parce qu'on veut entraîner l'ensemble des professions et les essaimer sur le territoire. Et donc, on a une feuille de route avec 10 actions, 12 mois, tout ça est cadré. On s'est fixé une vraie méthodologie
de travail.
Alors,
vous commencez quand? Vous dites 12 mois, là, ça commence quand?
On a un petit peu commencé, mais on va dire que le compteur, il est maintenant, on le met à zéro.
Il démarre dans un mois.
Parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de visio, on pouvait pas trop se voir, mais voilà. Donc, dans 12 mois, à ce salon, on pourra présenter des choses beaucoup plus concrètes. Alors, parmi ces choses-là, parmi ces actions, on peut les déployer. On a en fait quatre actions majeures. Faciliter la commande, proposer des outils opérationnels, dont le référentiel, développer le réseau des professionnels sur le territoire et innover dans les financements. Voilà. Après, je peux décliner chacun de ces objets. Par exemple, sur l'action 1, on va revoir un peu, fluidifier ce DTG, ce diagnostic technique global, qui est très bien pour les grosses copros, pour les petites copros. ça devient inaccessible et donc il faut qu'on repense ça. Ensuite, déployer la synergie entre tous les acteurs, c'est pas en claquant des doigts, ça se fait, il faut apprendre à se connaître.
Il faut les former aussi, mais les former de façon interdisciplinaire.
Voilà.
Et ça, c'est le point important.
Mais là, tu me brûles une action.
Ah oui, mais vous n'êtes pas là pour parler tout seul, faut pas oublier Jean-Charles Vaillant aussi, il a plein de choses à dire.
Je termine sur ce premier volet.
Vas-y, finis, François.
Et puis mettre en place justement un référentiel de rénovation globale pour qu'on ait un fil rouge qui soit à peu près cohérent.
Un référentiel, c'est quoi ? C'est une forme de cahier des charges ? Enfin, bon,
oui, il y a des choses qui existent déjà. Sur l'Agence parisienne du climat, on a tous collaboré à l'élaboration d'un contrat de contenu de diagnostic technique global ou d'action de maîtrise d'œuvre. Voilà, il faut le partager avec les autres parties prenantes, le valider, l'alléger peut-être pour les petites copros, pour les aider. Voilà. Donc ça, c'était la première action, faciliter la commande. Et on va pouvoir, dans les outils opérationnels, parler de cette formation interprofessionnelle, par exemple.
Voilà, formation interprofessionnelle.
Alors, Olivier Safar, et après, j'oublie pas Jean-Charles Vallant, parce qu'il est prêt aussi à réagir. Faut pas l'oublier.
Pourquoi ? Parce qu'il faut former tout le monde au métier des uns et des autres. La difficulté, c'est pas de former des syndics à savoir comment on convoque une assemblée générale, mais c'est d'expliquer aux architectes, aux entreprises du bâtiment, aux bureaux d'études, comment ça marche. Hier, j'étais à la Fédération française du bâtiment et on a fait une formation pour tous ceux pour expliquer comment ça marche en copropriété, pourquoi quand on passe une commande en copropriété, ça vient pas tout de suite. Parce que je demande le devis, globalement, en 4, 5 mois ou 6 mois avant l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, on la convoque, il y a un délai d'un mois. Ensuite, il y a un délai d'un mois pour faire le procès verbal, puis un délai de 2 mois pour recevoir les éventuels copropriétaires opposants. Qui pourraient remettre en cause des décisions. Donc on est sur 6 à 8 mois. Et les entreprises ne comprenaient pas. Pourquoi ? Parce qu'elles disent, mais j'ai fait le devis à telle date, le prix c'est tel prix, mais vous me donnez l'accord globalement 9 mois après.
Oui, et comme les prix sont fous.
Et comme les prix s'envolent, bien évidemment, c'est encore plus dur. Mais le but du jeu, c'est de réexpliquer tout ça. C'est la même chose. Les architectes doivent expliquer aux syndics comment ça marche. Les bureaux d'études doivent expliquer aux syndics comment ça marche. Et derrière, il faut que l'on monte les financements. Et là, on a besoin, effectivement, d'aller trouver des gens qui vont nous aider dans les financements. C'est une difficulté, c'est une pierre angulaire importante. Crédit d'un côté, mais aussi aide, subvention et, j'allais dire, une florilège d'aides et de compléments.
Alors, on va en parler de cette question de financement, mais évidemment, Jean-Charles Vaillant, vous pouvez ajouter un complément à ce qui a commencé à être détaillé par François Pellegrin.
Oui, effectivement, sur le volet formation interdisciplinaire, c'est ce qui nous semble essentiel, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de formations qu'on appelle silotées. Chaque profession va se former sur cette thématique. Et on se rend compte que les freins, finalement, ils apparaissent souvent au point de friction entre les professionnels. Et donc, ça nous semble essentiel sur des formats courts, pas des formations extrêmement longues, mais justement pour arriver à débloquer tous ces a priori, tous ces réflexes malheureux qu'on peut avoir et qui, malencontreusement, vont stopper des projets de rénovation qui auraient pu très bien aboutir s'ils avaient...
Vous l'avez vu concrètement, que parfois cette absence de compréhension entre les uns et les autres, de dialogue, finalement, a pu être néfaste.
Tout à fait. Je pense que tous autour de la table, nos premières opérations de rénovation énergétique, elles ont été chaotiques. On a appris par l'erreur. Et l'objectif, c'est justement d'arriver à retransmettre aujourd'hui à l'ensemble de la profession là où il ne faut pas aller et au contraire les bonnes pratiques à appliquer.
Alors François Pellegrin, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Parce qu'après je voudrais aborder la question du financement, mais
oui,
allez-y.
Non, mais sur la professionnelle, je pense qu'on a fait le tour. La troisième étape, c'est effectivement de consolider nos réflexions et de les exporter pour que sur le territoire des binômes, des trinômes, syndic, archi, BE se forment, sans oublier l'ingénierie financière, parce que c'est très important de calculer. Et après, oui, le dernier sujet, c'est essayer d'innover dans les modes de financement.
Oui, parce que j'allais vous dire, moi je regarde ça, je trouve que l'idée est formidable. On parle de rénovation globale qui englobe pas seulement la rénovation énergétique, j'ai bien compris, mais ça peut faire des enveloppes qui sont sacrément lourdes, non ?
Ah oui, mais qui serait à faire si on ne fait rien ? Et au prix fort, parce que ce sera fait dans l'urgence.
Vous voulez dire le prix de l'inaction, ce dont on parle beaucoup.
Le prix de l'inaction coûte excessivement cher. L'objectif du législateur, en amenant l'idée du DTG, du diagnostic technique global, c'est de déboucher sur un plan pluriannuel de travaux pour que la copropriété comprenne que son bâtiment, c'est... comme une voiture ou comme le corps humain. Ce matin, la conversation a été faite et le corps peut devenir malade. On assiste aujourd'hui, pour les immeubles béton, à une accélération des pathologies qui sont dues aux cycles rapprochés et aux fréquences et aux amplitudes chaud-froid. On l'a vécu là avec de la neige il y a peu
de temps.
Et puis du 20 degrés une semaine avant. Je peux vous dire que c'est visible sur les pathologies, les ouvertures de fissures, les aciers qui ressortent. Voilà. Donc il faut soigner le malade.
Et donc ça ne peut que s'accentuer si malheureusement ces phénomènes s'accentuent.
Voilà. Donc je veux dire, oui, vous dites que... Oui, ça peut coûter cher, mais ne rien faire coûtera beaucoup plus cher.
Mais c'est souvent ce qui revient, c'est qu'on dit souvent dans ces sujets hein, liés à la transition écologique, ok, je veux bien y aller, mais vous avez vu l'investissement comme il est lourd au départ. C'est
oui,
pour ça que je souligne.
Normalement, en gestion de bon père de famille, et d'ailleurs c'est le cas pour l'automobile, puisque de toute façon on est obligé du contrôle technique. On n'a pas inventé le contrôle technique continu, mais normalement, il y a des immeubles qui passeraient pas la barre. Mmh. Et ça fait 20 ans qu'ils auraient déjà dû faire des choses.
Alors, oui, Olivier, ça
il y a deux choses. N'oubliez pas, les immeubles qui ont été construits dans les années 60, 70, 80 ont une obsolescence plus rapide que les immeubles pierre de taille. Et ça, les gens ne l'ont pas compris. C'est-à-dire que quand on achète dans un immeuble comme ça, on sait que globalement, à 20-25 ans, on va avoir beaucoup de travaux et des travaux de remise en état. Mmh. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est pas de leur dire « faites les travaux tout de suite ». C'est de dire « votre immeuble en a besoin, on doit faire des choses, on l'organise et on vous accompagne ». Parce qu'il faut l'expliquer. Pourquoi ? Parce que si effectivement les travaux de ravalement sont à faire sur un immeuble des années 70, autant en profiter pour faire une partie rénovation énergétique en même temps, pour améliorer peut-être la végétalisation, pour changer les fenêtres, pour refaire la cage d'escalier ou le hall d'entrée. Pourquoi ? Parce qu'il faut que quand vous avez des travaux, que les copropriétaires puissent se rendre compte qu'on a amélioré leur cadre de vie, qu'on a amélioré au niveau énergétique, bien évidemment, et qu'on a amélioré leur cadre de vie. Mmh. Et le problème, c'est le financement. Ils nous disent, mais c'est pas rentable. Quand je fais mon calcul de retour sur investissement, vous me donnez 14 ans, 15 ans, 18 ans. En moyenne, un copropriétaire, il reste 7 à 8 ans dans son appartement. Mmh. Et donc, au bout de 7 à 8 ans, il a vendu, il repart ailleurs. Et bien, la réalité ne se calcule pas comme ça. Vous savez que vous avez des travaux à réaliser. Vous savez que vous devez faire votre ravalement, votre toiture, votre étanchéité. Mais si vous rajoutez une partie globale complémentaire, énergétique et globale, combien ça coûte en plus ? Et c'est là-dessus que l'on calcule le retour sur investissement, parce que c'est là où vous avez la plus-value.
Voilà, et qui est généralement inférieur à moins de 10 ans.
Et globalement, en moyenne, on tourne entre 7 et 10 ans, suivant ce qu'il y a à faire dans les immeubles. Mmh. Et là, on se rend compte. Pourquoi ? Parce que sur certains immeubles, ben, on a des immeubles à un endroit. L'immeuble qui est en face, il se vend entre 700 et 800 euros le mètre carré, plus cher que l'autre qui est en face, dans lequel on n'a pas fait les travaux. Ben oui. Et bien maintenant, on le voit. Et les gens sont contents parce qu'ils veulent habiter là. Ils ont trouvé que l'immeuble était très sympathique, que la couleur avait changé, tant mieux. Mais qu'en plus, ça donnait un confort de vie à l'intérieur qui était complètement différent.
Jean-Charles Vaillant.
Oui, je rejoins tout à fait Olivier. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a parlé de la question de la valeur vêtre en disant qu'effectivement, en fonction de la classe énergétique du logement, il y aurait un impact qui était peu visible. Et là, on voit avec l'accélération des choses, la loi climat qui vient de passer, qu'il y a vraiment un marqueur qui vient se positionner et qu'effectivement, la performance énergétique a un impact réel sur la valeur mobilière.
Alors, est-ce que c'est assez nouveau comme ça d'essayer de travailler ? On sait bien que ces sujets sont collaboratifs, François Pellegrin, mais là, de lancer une initiative comme ça d'un collectif, on va dire, à plus grande échelle.
Avec la spontanéité de son jaillissement, c'est assez original et c'est effectivement très nécessaire. Encore une fois, on nous fixe des objectifs, que ce soit par la loi climat et résilience, zéro artificialisation nette des sols, bas carbone horizon 2050. Bon, le neuf, c'est avec la RE 2020, ça va être réglé, mais le neuf, c'est 1% de ce qui est construit.
Exactement. Donc, et n'oublions pas que 95% des logements actuels, on les aura en 2050.
Absolument. Ils seront là. Hein.
Voilà, donc,
ils sont là, ils vont a priori rester.
Donc je salue tous les efforts de la RE 2020 et je les appliquerai parce qu'on fait une part de construction neuve dans notre agence. Mais le vrai, vrai chantier, il est celui que nous entreprenons. Et avec la conscience que seul, on ira dans le mur. Donc, ça légitime parfaitement d'articuler nos discours, de mettre en synergie, de convaincre les réticences. Et là, on sera au rendez-vous. Si en plus, les élus continuent à accompagner, Paris est un très bel exemple, hein, accompagner avec des primes, des aides pour les copropriétaires. Voilà, la dynamique s'installe et on la souhaite durable. Dans les recherches de financement, n'oublions pas aussi, quand c'est possible, l'occasion de surélever.
Oui.
Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques élus aujourd'hui. C'est très très bien. Mais avoir un permis de surélévation dans Paris, c'est un an. C'est 6 circuits à faire plusieurs fois. C'est épouvantable. J'ai plaidé la cause d'un guichet unique qui a semblé retenir l'attention de mes interlocuteurs pour qu'on puisse fluidifier un peu ça. Mais on voit qu'un certain nombre de copropriétés recèlent un trésor caché sous leur toit qui permet de réhabiliter à coût zéro et voire quelquefois à dégager en plus un bénéfice. Donc voilà, ça il faut l'identifier.
Voilà, le bénéfice, je ne suis pas sûr. De diminuer le montant des travaux, j'ai aucun doute.
Ça dépend des cas de figure.
Voilà, mais clairement aujourd'hui, c'est une possibilité. Et ces financements, il faut les mettre en œuvre. Je ne vous cache pas que dans le cadre des aides et des subventions, ma prime Rénov CoPro était un point important. Vous avez en plus les primes Rénov individuelles, sérénité et autres, les sorties de passoires énergétiques en plus à rajouter dans certains immeubles. Donc tout ceci, ça s'ajoute.
Donc tous les outils financiers, ils existent tous ou il faudrait peut-être
en créer d'autres. Il faut en créer d'autres.
Donc et on va passer le message.
Voilà, nous, on a demandé effectivement à ce qu'il y ait d'autres banques qui viennent pour financer parce qu'aujourd'hui, on n'a que deux banques. Elles sont là aujourd'hui, mais il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire que quand vous avez des dossiers, vous êtes coincé. S'il y a 40 dossiers en même temps, vous allez mettre 6 mois ou 9 mois pour obtenir le financement des travaux à réaliser. Et ce n'est pas un seul crédit à monter. Vous avez un éco-PTZ collectif, vous avez un crédit pour les subventions que vous avez demandées parce que vous ne touchez pas la totalité des subventions au départ. Donc là, vous allez avoir le crédit court terme pour les subventions. Et ensuite, vous avez un crédit de reste à charge pour chacun des copropriétaires. Donc vous imaginez, monter 3 dossiers compliqués avec pas les mêmes, bien évidemment, parce que certains vont prendre le crédit 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans maintenant. Et c'est possible, mais vous comprenez les difficultés qui sont à faire. Il faut un ingénieur financier en plus dans l'opération pour monter tous ces dossiers.
Bon, j'ai compris, il fallait encore embarquer quelques banques dans cette histoire.
Oui, on a besoin d'eux, on a besoin de tiers financeurs. Je sais que certains ont étudié ces points-là. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas simple pour une entreprise de faire le financement de la copropriété en lui disant vous payez sur 10 ans. C'est l'entreprise qui supporte le risque de crédit et ça, c'est pas top.
Jean-Charles Vaillant.
Oui, on voit que les outils de financement, ils ont bien évolué du côté maison individuelle. On est encore un peu le parent pauvre côté copropriété, même s'il y a plein de choses très intéressantes qui se sont mises en place. Mais on voit bien que voilà, il y a encore des besoins conséquents et on fait confiance aussi aux législateurs effectivement pour apporter des nouvelles solutions qui soient adaptées vraiment au secteur copropriété.
Vraiment adaptées, comme quoi voilà, il y a des aides, mais il y a encore besoin de faire bouger les lignes, si je puis dire. Alors donc, ce collectif Rénovation Globale, vous donnez 12 mois, c'est ça? Là, vous lancez
François Perrin. Oui, on se donne 12 mois pour pouvoir mettre sur la table des choses pratico-pratiques qui seront utilisables par les uns et par les autres. Et puis aussi pour témoigner que... c'est un très bel effort qui sera payant pour les copropriétaires parce qu'on peut rehausser et requalifier leur immeuble. On peut donner à cet immeuble des qualités qu'il n'avait même pas visées à sa construction parce que ce n'était pas le sujet. Mais on peut le biodiversifier, on peut faire de l'économie d'énergie par captation solaire, on peut faire plein de choses. On peut remonter son étiquette, on peut réenchanter le cadre de vie, redonner de la fierté aux habitants d'habiter devant, de rentrer dans leur immeuble. Alors qu'aujourd'hui, quand la pâte de verre s'effrite ou quand les lézards sont trop apparentes, ils en ont un petit peu honte, ils n'ont même pas invité leurs amis chez eux, voilà. Donc c'est le message qu'on va faire ressortir, c'est que c'est pas que du calcul thermique confort, c'est en plus réenchanter son cadre de vie.
Et voilà, et c'est lié typiquement à l'humain. Alors vous voulez rajouter quelque chose en conclusion l'un et l'autre, Jean-Charles Vaillant ?
Non, je crois que c'est le message vraiment qu'il faut faire passer. La rénovation globale, c'est retrouver véritablement une belle valeur, un beau cadre de vie pour son immeuble.
Olivier Safar.
Le simplement vous dire qu'on est tous volontaires dans cette démarche et que on n'est pas allé simplement en disant viens avec moi, on a besoin de toi. C'est pas vrai. Quand on leur a présenté le projet, ils sont tous venus naturellement et ils se sont rendus compte qu'on avait un besoin de l'organiser et de le faire. Et en tout cas, moi, je tiens à remercier tous ceux qui participent dans ce collectif parce que c'est de l'investissement, c'est de l'organisation, mais c'est pour être là pour nos copropriétaires parce qu'on s'en occupe de tous les jours. Même si l'accompagnement n'est pas toujours facile, mais c'est notre job.
Et j'imagine qu'ils vont être encore plus nombreux. Là, vous êtes en train d'en parler autour de vous, à vous rejoindre. On s'appelle Grand.
Oui. Enfin, on a déjà un beau panel.
Un beau panel.
Maintenant,
vous êtes combien à peu près?
Il y a une trentaine d'acteurs déjà. Voilà, il y a les énergéticiens, il y a des agences. Et alors oui, si chose importante, je crois qu'on l'a pas dit, on n'a pas voulu encore créer une association, des statuts, un trésorier, une cotisation. Il y en a suffisamment. Donc on s'est abrité sous l'égide de l'association Alliance HQE, GBC HQE. Donc avec on saura l'utiliser notre députée
Marjolaine
qui ira apporter haut nos couleurs. Elle partage avec nous complètement. Elle était là d'ailleurs au lancement de cette démarche. Donc voilà, on n'a pas créé une association en plus. On s'abrite derrière une structure qui est déjà connue, reconnue, et on va c'est du bénévolat. Hein, on va faire tout ce qu'il faut pour avancer assez rapidement sur ces sujets.
Et on va suivre ça de près. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus parler de ce collectif Rénovation Globale avec un nouveau référentiel d'offres pour la copropriété, mais pas seulement. On l'a bien compris. On va suivre ça dans l'année qui vient. Merci François Pellegrin, architecte urbaniste. sein de l'Union nationale des syndicats français d'architectes, à vous Jean-Charles Vaillant, un membre de la compagnie des architectes de copropriété, et à Olivier Safar, hein, qui est président adjoint de l'UNIS, l'Union nationale des syndicats de l'immobilier en charge de la copropriété. C'était donc cette dernière séquence en direct de ce forum Habiter Durable qui a réuni beaucoup de monde aujourd'hui. Le forum n'est pas tout à fait fini, mais en tout cas, le direct là de Carbone Zéro, la radio et Radio Immo se termine à présent. Merci encore et à bientôt sur Carbone Zéro, la radio.
Le forum Habiter Durable sur le thème Rénover en copropriété, mardi 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris sur Radio Immo et Carbone Zéro, la radio.